toujours un peu difficile au niveau du son, quoi.
Ouais.
Mais c'était cool, ouais. Et donc, hâte de les revoir. Et même en enregistrement, c'est aussi pas mal, du coup. Et donc, on va écouter, je crois, Incendiada.
Ouais.
Con cuerdas ya los límites del dadaísmo. El viejo juego es puro oportunismo. Efectos mariposas, ¿o no está lindo? Colonizadores exigiendo devoción. ¿Quién realmente elige quién nos sepultará hoy? La historia se repite, luz y perversión. Regresión.
anniversaire, on veut-tu en v'là. C'est on veut-tu en v'là, la radio sur Radio Libertaire 89.4. On vient d'écouter un super morceau du groupe The Parapluies. Le morceau, c'était Art and Facts. C'est sur une petite cassette qui est sortie en 1984. C'est un groupe allemand. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur ce truc. On en a parlé à un after avec chez Oriane, la copine de Baba.
C'est beaucoup d'after,
toi. Je sais plus du tout qui m'a parlé de ça. On n'avait même pas écouté, mais on m'a dit ouais, écoute The Parapluies, c'est vachement bien et tout. Et va savoir pourquoi, va savoir comment. Je m'en suis rappelé et je l'ai écouté au travail et j'ai pris une claque. Et du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, c'était The Parapluies avec Art and Facts sur la cassette éponyme sortie en 1984. Voilà.
Et ben, c'est la fin du coup. On se retrouve du coup samedi prochain.
Mais Johan, il a un petit morceau.
Ouais, bien sûr.
Bah, pour venir.
Oui. Mais d'abord, disons-nous. Bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Oh là là. On vous voit le 22.
Oh, attention. Ah.
Oui. On vous voit le 22.
Oh, oui, bien sûr.
Où ça? À Main-d'œuvre.
Main-d'œuvre.
Pour l'anniversaire d'En veux-tu en v'là, le 13.
Prix libre.
Prix libre.
Eh oui.
Avec des groupes.
C'était donc En veux-tu en v'là, la radio sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et on se laisse avec le morceau de Johan. L'un des morceaux de Johan.
Ouais.
Ouais.
Du coup, le morceau s'appelle Saint du groupe Tomato Flower. Du coup, c'est quoi? C'est un groupe de Baltimore, apparemment, dans le Maryland.
Ok.
Et
de John Waters.
Joli. Et du coup, ouais, un petit morceau que j'ai bien kiffé, qui ouvre l'album. Et voilà, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est assez récent.
16 janvier 2024.
Ouais, dans leur discographie qui est quand même. Qui commence à. Ils ont un peu de bouteille. Non, ça va. 2022.
Ouais. Ouais, c'est. Deux ans, c'est beaucoup quand même.
Ils ont beaucoup de disons, disons de la bouteille quand même.
Moi, je connais des groupes qui sont bien plus vieux que ça.
Et du coup, voilà, bah, au revoir.
Bisous, okay. Johan, bisous Karim.
Et bah, salut, bah, on espère vous voir samedi.
Bisous les abonnés.
Et à très bientôt. Bisous Radio Libertaire, salut.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Bon appétit les abonnés.
avec qui c'est marre dans les castes. Nos cerveaux et sa vie, t'as l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles par de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est le numéro d'idéal. Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme deux invités. Structure classique. Le premier, c'est quelqu'un qu'on a déjà reçu dans cette émission qui s'appelle Mathieu Mégevant et qui nous revient avec un récit qui est publié chez Actes Sud et qui s'intitule « Comme après », livre très sensible sur ce qui se passe dans l'après-cancer quand il faut continuer la vie. Et le deuxième livre dont nous parlerons s'intitule « Le Nobel des massacreurs ». C'est de Claudine Desmarteaux. C'est paru dans la collection Signes chez Gallimard. Et ça traite de la psychochirurgie, plus précisément de la lobotomie, au travers de ce roman à la fois historique, détaillé et captivant. Voilà pour le programme de ce soir. On retrouve tout de suite Mathieu Mégevant. Donc, c'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver Mathieu Mégevant pour un nouveau livre qui est paru chez Actes Sud et qui s'intitule « Comme après ». C'est un livre que j'ai aimé, c'est un livre différent des précédents, donc je crois que c'est important de le préciser pour les auditeurs qui ont peut-être lu vos romans antérieurs. On s'était vu pour parler de Mozart, entre autres, et là, c'est un ouvrage beaucoup plus personnel. Alors, ouvrage plus personnel, changement d'éditeur, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, là.
Oui, effectivement, plus personnel, ça m'était déjà arrivé, mais il y a bien longtemps, au moins une dizaine d'années. Ensuite, j'avais fait cette trilogie, effectivement, chez Flammarion, là, sur Roger Gilbert, le Comte, Toulouse-Lautrec et Mozart. Puis là, j'avais envie, besoin, ou une espèce de nécessité de revenir à quelque chose de plus intime. Il se trouve que j'avais des liens assez anciens avec Actes Sud, mais qu'on n'avait jamais pu travailler avec la personne qui s'occupe de la collection, là, un endroit où aller. Et ça s'est fait pour ce texte-là, mais en fait, ça faisait longtemps qu'on aurait pu travailler ensemble, et voilà, il se trouve qu'elle était intéressée et touchée par le récit. C'était cohérent de le faire avec elle, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors, ce livre, moi, il m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé qu'il venait remplir un vide narratif important. Parce que comme après, le après, c'est le après de la maladie, le après du cancer, et c'est un sujet qui est rarement évoqué. Et en ça, moi, ça m'a intéressée. On va être amené à en discuter. C'est comment, du jour au lendemain, on se retrouve à devoir reprendre une vie normale alors quelque chose a été fulgurant et a tout bouleversé. Mais de manière plus générale, ce qui ressort également du livre, c'est de voir comment évolue la perception du temps. Et moi, ça m'a particulièrement intéressée dans votre livre. Alors, on va aborder, si vous voulez bien, ces deux points. La question première est de savoir, quand vous avez décidé d'écrire ce livre, est-ce que vous vous êtes donné des contraintes d'écriture ou est-ce que vous avez fait preuve d'une certaine liberté, parce qu'il y a une fluidité dans le récit qui est absolument fascinante?
Alors, il y avait, si vous voulez, le travail est toujours un peu le même, dans le sens où avant d'écrire, il y a tout un travail de préparation. Quand c'était des textes biographiques, enfin, des romans biographiques sur Mozart, etc., évidemment, il y avait tout un travail de recherche. Ici, la recherche n'est pas la même, puisqu'il c'est l'objet et le sujet, c'est des choses intimes. Donc, c'est, voilà. Mais il y a quand même un certain nombre de lectures, un certain nombre de préparations, prise de notes, etc., etc. Et le récit, lui, vient tout, enfin, le travail, l'écriture elle-même, je veux dire, la mise en récit, elle vient tout à la fin. Et là, en l'occurrence, elle était rapide. Je parle de, je sais pas, 3-4 mois pour écrire le livre, quelque chose comme ça, avec une volonté vraiment très forte. D'une certaine manière, moi, j'imagine qu'on lit un texte comme ça du début à la fin, ouais, et d'une traite.
Oui, c'était le cas. Ça a été le cas.
Le livre est pas long en plus, mais c'est vraiment pensé comme ça. Si vous voulez, c'est pour moi, on l'ouvre et la plupart des gens qui me font des retours de lecture me le disent, quoi, c'est qu'ils l'ouvrent et ils le lisent en une fois et ils le referment. Donc, voilà, il y a vraiment cette volonté là.
On a l'impression, en vous lisant, que vous nous parlez. Que vous nous racontez l'histoire. Et c'est ça qui fait qu'on ne décroche pas en cours de route, c'est que c'est comme si vous étiez en face de nous et que vous nous ameniez du moment où le livre débute, c'est-à-dire le moment où il y a la perfusion de chimiothérapie, jusqu'à maintenant.
C'est 20 ans après, exactement. Quoi. Et c'est les 20 ans de... C'est 20 ans en 150 pages et quelques. Mais qui... Exactement, enfin, vous avez parfaitement compris l'intention. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, réellement. Donc, de transmission d'une expérience, bien sûr, mais aussi, vous l'avez bien compris, j'imagine, de réflexion, de pensée, de rapport au temps, de rapport au monde, de rapport à l'existence, de rapport aux autres, etc. Et tout ça, oui, il y a vraiment la volonté de tenter de le dire à l'autre. L'autre, c'est le lecteur imaginaire, quoi. Avec une fluidité et un besoin d'être compris aussi, j'imagine. Parce que voilà, l'expérience en tant que telle, elle n'est pas unique, évidemment que non, mais elle est assez singulière dans le sens où j'ai été malade quand j'avais 20 ans, enfin 21 ans, maintenant j'en ai 40, donc c'est évidemment que la perception du monde change et il y a cette volonté de transmission vis-à-vis de cette nouvelle perception. Ouais.
Alors, il y a différents éléments qu'on va évoquer. Effectivement, vous évoquez le fait qu'à 21 ans, vous êtes tombé dessus un diagnostic totalement inattendu quand on a 21 ans, qui est l'irruption soudain dans sa vie de la mort, de la possibilité de la mort, au travers d'une maladie de Hodgkin, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, qui font que d'un seul coup, on a cette épée de Damoclès, en sachant que 9 sur 10 guérissent, mais... sera-t-on dans les 9 sur 10 en question? Donc ça, c'est quelque chose d'assez brutal qui fait irruption, qui est inattendu et qu'on ne pense pas à cet âge-là. Et puis, et ça, c'est plus le sujet du livre, à un moment donné, on vous dit, vous êtes en rémission, reprenez la vie normale. Et ça, c'est l'autre bouleversement. C'est, vous avez vécu quelque chose de tellement intrusif, violent, que comment peut-on reprendre le cours de sa vie alors que pendant quelques mois, la vie a été elle-même suspendue?
Exactement, c'est l'objet, c'est le livre est là-dessus, c'est-à-dire qu'il commence par une chimio pour montrer évidemment ce qui se passe, sinon on ne comprend rien, mais c'est le tout début. Ensuite, tout le texte lui-même est effectivement sur cette on vous rebalance sur cette scène qui est la vie normale entre guillemets, alors qu'effectivement pendant quelques mois vous avez été suspendu au traitement, suspendu aux résultats, suspendu au scanner, au rendez-vous avec l'oncologue, etc. Et tout à coup, du jour au lendemain, c'est tout ça s'arrête. On vous dit, bah voilà, c'est bon, cette parenthèse s'achève, reviens là où t'en étais. Mais évidemment qu'on n'en revient plus jamais à là où on était avant. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de retracer ces 20 années, donc c'est chronologique, mais en étant à chaque fois dans le moment des années qui évoluent. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a la perception de la vie évolue sans cesse. C'est-à-dire, à 22 ans, on est guéri ou en rémission. Puis après, on a 25, 27, 30, 35, quoi, jusqu'à 40. Et à chaque fois, tout ça influence la vie et la manière de se comporter vis-à-vis de l'existence. Et c'est à la fois brutal, à la fois douloureux. Et en même temps, il n'y a pas que ça, évidemment, quoi. Il y a aussi une espèce de... l'existence a tout à coup pas forcément une saveur, mais une matière plus dense, on va dire.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps.
Alors, oui et non, je me permets de reprendre par rapport à votre livre, c'est qu'on voit, quand on vous lit, qu'il y a tout un chemin à parcourir. Alors, on évoquait l'importance du rapport au temps, on va y venir. Il y a aussi toute la question du sens qui est explorée. Et puis, il y a la réappropriation du corps. C'est les trois fils rouges du livre.
Alors, Totalement. Alors
on va commencer, si vous le voulez bien, par le rapport au temps, parce que le temps s'écoule, on n'y pense pas, c'est comme ça. On oublie, on pense à ce qu'on a à faire et autres. Et puis, quand on vit un événement comme vous l'avez vécu, eh ben, le rapport au temps se modifie, parce qu'on ne sait pas combien de temps on a, on ne le mesure plus de la même façon, on ne l'appréhende plus de la même façon, et ça va être aussi, mais voilà, dans un an, est-ce que je serai encore là? Est-ce que je fêterai cet anniversaire? Vous évoquez l'anniversaire de votre mère. J'aurai jamais d'enfant. Je ne pourrai pas. Et puis, il y a aussi l'agacement par rapport au temps perdu de cette femme qui joue sur son téléphone. Donc là, la donne est complètement modifiée.
Oui, tout à fait. Il y a à la fois le temps qui se modifie pendant la maladie, puisque, bah, comme on en parlait, là, vous êtes suspendu aux résultats, etc. Et puis, c'est surtout ça que j'évoque après, c'est effectivement le temps, comment on essaye de retrouver le sens du temps, entre guillemets, normal, quand on l'a perdu pendant longtemps, et justement, pas seulement parce qu'on était en traitement, qu'on pouvait plus mener une vie normale au quotidien, mais aussi justement parce que cette épée de Damoclès, ou ce sentiment d'échéance qui pouvait survenir, ou pas, mais voilà, cet entre-deux permanent fait que la perception est modifiée et continue d'être modifiée même quand vous êtes guéri. C'est-à-dire que après, justement, la perception de la vie en général et donc du temps est toujours dans cette oscillation. C'est pour ça que sur la couverture il y a un funambule. C'est que parfois vous basculez du côté de la panique ou de l'angoisse ou de la crispation vis-à-vis du temps, en vous disant mais si demain ça s'arrête, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Et c'est plutôt paralysant. Et d'un autre côté, c'est une libération, parce que du coup, vous êtes plus prisonnier du temps, dans le sens où il est tellement vaste et tellement imperceptible qu'il ne compte pas et que du coup, on peut le perdre en jouant. Alors évidemment, c'est complètement subjectif. Hein. Mais voilà, là, il y a une notion que le temps compte. Donc, ça peut être en mal comme en bien, si je puis dire. Mais c'est cette oscillation-là que j'essaye de raconter, qui s'arrête jamais aussi. Dans le livre, il y a quand même la volonté de montrer que c'est pas un film hollywoodien, vous voyez, on sort pas d'un truc où on est tout à coup mieux et on a enfin compris quelque chose et la vie est plus belle. Je veux dire, c'est sans cesse un peu ténébreux et un peu lumineux, mais c'est jamais que l'un ou que l'autre, quoi.
Oui, et en plus, oui, c'est complètement ambivalent, en fait, comme perception, parce que il y a des moments où vous perdez votre temps dans des tas de trucs, mais voir d'autres en train de perdre, ça vous est insupportable.
Oui, totalement. Mais parce que, mais évidemment, c'est cette subjectivité-là que j'essaie de raconter. C'est-à-dire qu'évidemment, j'en fais pas une règle. Absolument. Pour d'autres, c'est évidemment, il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Mais il y a des choses qui cristallisent cette perte de temps, c'est-à-dire ce temps dépensé comme s'il était infini, et qui me renvoie au fait que, justement, pas, il n'est pas infini. Et donc, il faut en prendre soin. Et de voir qu'on peut le dilapider comme ça, ce temps, ça m'est insupportable. Mais ça m'empêche pas, évidemment, dans le récit, de moi-même vivre des choses complètement anodines, banales et sans aucun intérêt absolu, ni vis-à-vis du sens de l'existence, etc. Mais pendant que je le vis, j'ai quand même l'impression que ça compte.
Alors, oui c'est... Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment cette perception va évoluer au fil du temps, parce que justement c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un premier temps le temps est figé, c'est le temps de la maladie, et puis il y a un petit espace qui est donné, c'est les premiers temps de la rémission, et puis après les années passent et ça se dilate un peu, mais pourtant il n'y a pas de rapport entre cette dilatation temporelle entre guillemets et les possibles que ça crée. Et ça aussi, c'est intéressant.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, c'était naturel pour moi de le raconter comme ça, mais dans votre bouche, je comprends évidemment comment ça, ça fait quand c'est tout à coup mis en le lisant dans un texte. Et effectivement, il y a une... évidemment, plus on est proche de la maladie et du début, plus elle influence sur la perception du temps et plus ce temps reste un peu suspendu à la rémission, surtout qu'il y a 5 années qui suivent la maladie où on a des contrôles, etc. Et puis ensuite, tout ça se défait. Mais c'est-à-dire que même 20 ans après, vous pouvez vous retrouver prisonnier du temps d'il y a 20 ans, l'espace de quelques jours ou quelques semaines, comme si vous y retourniez, en fait.
L'espace d'un examen, comme le cas de l'IRM que vous devez passer pour des maux de tête, on s'aperçoit qu'on revient à cette acutisation de la conscience du temps de manière très, très violente, parce que là, chaque seconde est une seconde d'angoisse, et donc là, ça défile à un rythme complètement différent. On revient à la case départ.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est raconté comme une scène, avec un peu minute par minute. Vous rentrez, vous allez, vous faites l'IRM, vous attendez, vous pensez, vous réfléchissez. Enfin, tout ça, justement, comme vous le dites, se dilate dans un temps qui suspend et qui est complètement étouffé par l'angoisse, par la crainte, etc. Et en même temps, je raconte aussi à la fin du chapitre, puisque l'IRM est rien d'autre que des problèmes de vue, peut-être, qu'au fond, il y a peut-être une partie du narrateur qui souhaite revivre ça, parce qu'il revit l'angoisse de ce temps dilaté, mais il revit aussi la libération. Et peut-être que c'est une espèce de shoot que lorsqu'on le vit une fois, on a besoin de le revivre de temps à autre, à la fois pour sa dimension tragique, mais en même temps pour sa dimension libératrice, parce que ça vous fait vivre quelque chose d'assez unique. Alors je ne dis pas que c'est que ça, mais je pense qu'il y a quand même une partie de... Ouais, qui reste, j'imagine, comme un soldat qui a besoin. Alors, je veux pas comparer les expériences, c'est pas ça que je veux dire, mais qui a besoin de revenir sur des terrains chauds, parce que voilà, il y a un sentiment d'adrénaline et ensuite de repartir qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et peut-être il y a aussi quelque chose de ça qui reste même 20 ans après.
Mais cette recherche d'adrénaline, elle est présente dans d'autres circonstances aussi. Alors on va laisser les potentiels lecteurs le découvrir, mais c'est quelque chose, on a l'impression qu'il y a besoin d'aller toucher du doigt ces sensations extrêmes.
Oui, et puis alors bien sûr extrême ou intense, mais pas intense, extrême dans le sens, c'est pas nécessairement faire du saut en parachute.
Non, jusqu'au bout de la nuit.
Voilà, par exemple jusqu'au bout de la nuit, alors ça peut être assez intense effectivement. Avec évidemment et puis aussi mais dans les relations, enfin je veux dire que les relations doivent compter et doivent avoir aussi peut-être pas extrême mais une très forte intensité pour qu'elles prennent du sens. Sinon elles ressemblent à un jeu de solitaire dans un train, ce que je raconte, que vous avez relevé, et c'est-à-dire c'est fade et c'est ça ne compte pas. Donc effectivement oui il y a tout devient plus nécessaire d'une certaine manière, quoi.
Si au milieu des terres jusqu'au plus infime, une place à jamais te resterait. Sois sanctifié.
Et ça nous amène à la question du sens, parce que quand on vit ce genre d'événement à 21 ans, on se pose la question du sens, et du sens de la maladie, du sens de la mort, du sens du mal, du sens de la vie. Et c'est une démarche, je veux dire, qui est quasiment obligatoire. On est obligé d'en passer par là pour retrouver un minimum de, j'allais dire, d'aptitude à vivre.
Oui, et puis en plus, c'est une chose qui fait partie de l'être humain au même titre que sa respiration ou le besoin de se nourrir, il a aussi besoin de trouver du sens à ce qui lui arrive. Donc évidemment que au moment où vous êtes malade et juste après, déjà vous êtes assailli par toutes sortes de personnes, d'ailleurs la plupart pleines de compassion et de bonne volonté, mais qui essayent de vous expliquer quel est le sens de ce qui vous est arrivé. Et c'est particulièrement insupportable, ouais. Surtout avec le temps, parce que déjà ils l'ont pas vécu et surtout ils arrivent avec des espèces de certitudes que vous avez jamais. Par contre, ça permet, et c'est ce qui arrive nécessairement, de d'aller un petit peu, pas un petit peu, d'aller vraiment au front de cette quête de sens et de tenter de trouver non pas des réponses, parce qu'on se rend assez vite compte qu'il n'y en a pas, mais une manière de comprendre l'existence complètement différemment. Et ça, je pense que vraiment, autant, genre, je le mets dans le livre, je déteste toutes ces histoires de ce qui ne te tue pas te rend plus fort, tomber 9 fois, se relever 10, enfin, toutes ces choses du genre, un mal t'arrive, mais c'est un bien, au final. Moi, je crois pas du tout à ça. Et vraiment, je pense que si on pouvait éviter le plus possible la douleur, le malheur et l'angoisse, on serait des êtres humains encore plus heureux. Mais le fait est que c'est là et qu'une des conséquences, on va dire, qui en tout cas, moi, m'apporte quelque chose dans ma vie, c'est le fait que cette quête de sens a beaucoup compté, compte encore et m'enrichit énormément. C'est-à-dire que à l'âge que j'ai, je me suis débarrassé pour moi de tout un tas d'illusions et de toutes sortes de choses qu'on peut croire sur le destin, sur le voilà, si vous avez un cancer, si vous avez été tellement
oui, alors ça c'est je me permets de vous interrompre.
Non, vous avez raison.
C'est effectivement vous avez un cancer pour tel truc et si vous vous battez, et ben vous allez gagner. Il y a cette logique assez martiale que je trouve absolument insupportable. Comme vous le dites d'ailleurs, les cimetières sont pleins de gens qui se sont battus jusqu'au bout. Il faut arrêter de porter des jugements de valeur sur la maladie aussi, qu'on serait responsable de tout et qu'on pourrait gérer aussi et vaincre sa maladie comme ça par une histoire de volonté.
Totalement, mais c'est après, je le dis maintenant, sur le moment c'était différent, mais on voit bien qu'en fait c'est que c'est tellement insupportable à l'être humain d'être face à quelque chose qui lui échappe totalement, et il n'est que le jouet d'une chose vis-à-vis de laquelle il peut à peu près rien, que évidemment ça lui est tellement insupportable que ça devient nécessaire de non pas être objet mais sujet de ce qui lui arrive. Et bah dès lors de se dire bah voilà, en fait je comprends très bien, si j'étais malade c'est cette rupture, voilà, c'est l'origine de mon cancer, et puis alors je me bats et puis je suis en phase avec moi-même, donc les chimios agissent, etc. Je dis pas que ça n'a aucun rapport, évidemment que si vous êtes bien vis-à-vis de vous-même, que vous menez une vie saine, etc., enfin bien sûr, mais cette espèce de lien direct de cause à effet entre son existence et sa maladie ou sa guérison, et déjà elle est fausse parce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est comme on le dit, sinon tous les battants seraient en vie et toutes les chiffres seraient au cimetière, et c'est de loin pas ce qui se passe. Et puis par ailleurs, c'est comme ça. Il nous arrive quand la foudre tombe, faut pas chercher une autre cause que la cause physique de la météo. Un cancer, c'est pareil, et la guérison, malheureusement, c'est souvent aussi du même ordre.
Alors, c'est vrai que cette quête de sens, elle va connaître plusieurs étapes, et on voit très bien le cheminement dans votre livre, comme après Mathieu Méjouan chez Actes Sud. Et moi, ce qui m'a touchée profondément, c'est qu'elle va en quelque sorte se cristalliser autour d'une rencontre, d'une interview assez improbable, alcoolisée.
Un peu, ouais, exactement. Ouais.
Mais qui va être une espèce de déclic. C'est vrai que le chemin était fait avant. Il n'y avait plus que ça qui manquait, quoi, pour que ça puisse avoir lieu.
Ouais, totalement. Bah voilà, il y a beaucoup de choses avant, en plus, qui sont à peine évoquées, mais c'était un moment qui, ça me semblait vraiment intéressant, parce que est-ce que ça s'est passé comme ça dans le réel? Finalement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se cristallise comme ça dans le texte. Avec une rencontre avec un chanteur qui est maintenant décédé depuis au moins 10 ans. Et qui est lui-même un ancien punk anarchiste, oui. Etc. Un chanteur très connu d'ailleurs, et qui que je vois, je le connais pas, hein, mais je le vois pour une interview, justement, je fais une interview de lui, et ça dure finalement toute la journée, et il m'offre une Bible, et on boit des bières, et il me raconte plein de choses, et je suis extrêmement touché, justement, ça correspond d'ailleurs assez bien à l'intitulé de votre radio, c'est un type qui est totalement libre, et du fait de cette liberté, peut se mettre, alors lui il croit en Dieu, mais il a une vie en fait qui est complètement libérée de plein de carcans qu'à l'époque je crois encore avoir, en tout cas qui me semble insurmontable, et cet exemple-là me fait explorer plein de choses nouvelles vis-à-vis de la foi, vis-à-vis même de la musique, vis-à-vis de plein de choses, qu'ensuite d'ailleurs je vais perdre, c'est une étape, c'est un moment, mais en tout cas malgré le fait que ce type-là, ce chanteur a connu toutes les addictions du monde, donc est lui-même avec plein de, est lui-même emprisonné par certaines choses, il mène une vie qui, en tout cas quand je le rencontre et le vois, me paraît être un exemple de liberté et de manière de s'approprier. Et du coup, on peut être anarchiste, punk et en même temps aller au culte, être à la base d'origine juive puis devenir protestant, faire des arts martiaux et puis etc. Enfin, voilà, qui mélange énormément de choses grâce à cette liberté, on va dire, intérieure, qui me touche beaucoup et qui est un exemple assez profond dans cette quête-là, ouais, ouais.
Alors, il y a un autre élément aussi qui va donner du sens et qui va vous permettre de vous réapproprier le sens, c'est l'art.
Ouais, ouais. Alors, bah, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Alors là, oui, c'est le. Alors ça, et puis alors ça, c'est quelque chose qui est jamais parti, qui existait même avant la maladie, et puis qui est, voilà, la trilogie que j'ai publiée chez Flammarion avant, qui est en fait trois vies de trois artistes, trois créateurs, et quel est le sens de la création, c'est exactement là-dessus. Et là, dans ce récit intime, bah, évidemment, l'art, la création, celle que je fais, ou bien de manière plutôt celle que je vois, que je lis, que j'écoute, etc. Ça, c'est la chose vis-à-vis de laquelle mais ça, c'est complètement universel et banal en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on vit tous, heureusement, une vibration supplémentaire grâce à l'art en général, ouais, qui nous amène à une profondeur et une densité dans l'existence qui est sans équivalent, quoi. À part peut-être la beauté de la nature, qui est peut-être une autre forme d'art, mais oui, évidemment, ça, c'est le noyau central qui reste pendant les 20 années, ouais, ouais.
Pas trouvé le sens. J'ai cherché dans la rue. J'ai écrit, j'ai aimé. J'ai voyagé, j'ai cru, j'ai nié des évidences. J'ai nagé nu. Mais désolé, j'ai pas trouvé le sens. J'ai pas envie de sauter, j'ai pas envie d'une balle. Je préfère exister, même si c'est pour que dalle. J'aime bien respirer, j'aime bien me sentir sale. J'aime avoir de la chance et me faire embrasser. Mais bien sûr, si j'y pense, tout ça n'a pas grand sens. Mais bien sûr, si j'y pense. Je donne tous mes objets, mes souvenirs aussi. Contre un sens à ma vie, mes mains qui a fait son temps, même un peu décevant, même que pour les vacances, même que le temps d'une danse. J'ai tout essayé, j'ai pas trouvé le sens. On dit que pour beaucoup, c'est la même béance. En ont-ils tous conscience tout le temps? Par à coup,
pouvait-il le commander à la naissance? Avec un peu de chance, nous parions poussé pour nous. Il y a peut-être encore un sens qui attend que j'aille le chercher sagement à la maternité. Un qui a son box aux urgences. Peut-être ne suis-je pas né, peut-être ne suis-je qu'absence. Tant que ne m'est pas donné le sens.
Et puis, pour continuer à parler donc, de Comme après de Mathieu Mégevant paru chez Actes Sud, on évoquait dans les fils rouges également de ce livre, Mathieu Mégevant, le chemin de réappropriation du corps. Et ce chemin, il est compliqué. Vous montrez très bien qu'à partir du moment où on vous dit « vous êtes en rémission, reprenez une vie normale », eh bien, comment reprendre une vie normale quand le corps nous a trahis, alors qu'on s'y attendait pas, la mort y a fait irruption, et que du coup, on en vient à se dire que le mal de gorge qu'on a, la douleur qu'on a, mais est-ce que c'est pas une reprise de la maladie? Est-ce que c'est pas une nouvelle localisation de la tumeur? Il y a cette incertitude et le fait que le corps est en quelque sorte un ennemi au départ.
Exactement, et c'est peut-être l'original, enfin en tout cas la singularité du récit et de l'expérience, c'est que c'est une maladie que je vis à 20 ans, 21 ans. Si vous voulez, quand vous avez un cancer à 60, déjà une partie de votre vie est derrière vous du fait mathématique, et puis vous avez un rapport à votre corps qui est complètement différent. Et en plus, si à 60 ans on vous annonce un cancer, c'est évidemment tragique, mais vous n'êtes pas surpris de la même manière qu'à 21 ans. Et donc à 21 ans, quand les signes précurseurs de ce qu'était un lymphome étaient pas inexistants, mais ils étaient relativement anodins ou relativement banals. Ce qui veut dire qu'après, comme après, c'est aussi ça, évidemment, comme vous le dites très bien vis-à-vis du corps, on ne sait plus, on le comprend plus en fait. On vit dans quelque chose dont les signes nous échappent. Et ça, c'est ce qui est le plus long, je pense, c'est de trouver des moyens de se réapproprier ce corps qui, une fois, s'est déréglé sans qu'on comprenne pourquoi ni comment, et dont les signes étaient finalement assez banals, et comment faire ensuite pour que, à chaque petite douleur, chaque mot, chaque, on replonge forcément d'une certaine manière dans les craintes, etc., mais en même temps, ce corps, c'est le seul qu'on a, et on a envie qu'il nous supporte et qu'il nous tienne, le plus longtemps possible. Donc, faut bien trouver des moyens de vivre avec et de se réapprivoiser l'un et l'autre, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement long, qui est jamais, encore une fois, j'insiste aussi là-dessus, mais c'est jamais fini, c'est jamais définitivement acquis, c'est toujours un va-et-vient, une oscillation, en des moments où le corps nous paraît vraiment un ennemi, ou au contraire, on se sent complètement en osmose avec ça, et ce bouleversement à 21 ans change aussi la profondeur de son rapport au corps, comme de son rapport aux autres, comme de son rapport à l'art, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de douloureux, à l'inverse de la quête de sens, où pour moi il y a vraiment un aspect fondamentalement positif. Pour le corps, c'est très différent, parce que vous êtes en face de quelque chose qui, sans cesse, le corps est un tremblement d'une certaine manière. C'est plus cette carapace solide que j'imagine on doit quand même sentir comme tel, en tout cas jusqu'à un certain âge, parce que il nous a jamais créé des alertes très fortes, alors que voilà, moi depuis 21 ans, j'ai toujours l'impression de vivre dans une espèce de feuille de papier de riz, vous voyez, très fin comme ça, et qui en même temps perçoit tout, et c'est un bienfait, mais en même temps peut se trouer très, très facilement. Donc c'est cet apprentissage-là est sans fin, en tout cas.
Oui, il y a cet aspect-là, et puis il y a le fait que aussi la maladie, quand elle survient, nous dépossède de notre corps dans la mesure où il est géré par d'autres. On devient patient, passif, et on n'a plus la main sur notre corps. C'est plus nous qui sommes acteurs de notre corps, de nos vies. Il est à la merci des autres. Et j'ai eu l'impression que tout ce que vous expliquez dans l'après, c'est-à-dire le recours à des guérisseurs, à des diverses médecines, diverses choses pour ont cette fonction de reprendre en main le corps, de redevenir acteur de son corps.
Oui, totalement, totalement. Puisque effectivement, la maladie vous dépossède puisqu'elle ne vous demande pas votre avis. Puis les traitements et toute la phase de guérison ont la même chose. Vous allez d'un endroit à l'autre, on vous injecte ce qu'on vous dit qu'il faut être injecté, enfin ainsi de suite. Voilà, vous pouvez que dire oui, oui, oui et espérer que ça aille mieux. Et ensuite, effectivement, en reprendre possession, mais c'est pas vraiment possession parce que vous vous rendez compte que vous posséderez plus jamais en fait ce corps-là et qui vous appartient sans vous appartenir et qu'il est en fait, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour en prendre soin. Voilà, c'est plutôt ça, en fait. Et tenter d'en prendre soin et tenter de se l'approprier aussi d'une certaine manière, mais tout en sachant que, en fait, un corps, c'est un corps physique. Et le physique est sujet de plein de bouleversements, voilà, dont on est vis-à-vis desquels on ne peut absolument rien faire et il faut tenter de l'accepter. Et ça peut être une libération et en même temps une douleur, quoi.
Ça s'appelle « Comme après », c'est de Mathieu Mégevan, c'est paru chez Actes Sud. C'est à lire parce que c'est vraiment un très beau témoignage. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais alors, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez continuer d'écrire et vous allez écrire dans quelle voie?
Ah, évidemment, non, je suis sur un travail de longue haleine sur Fernando Pessoa, le poète portugais. Depuis au moins 4 ans, je travaille dessus. Ce texte-là était un peu une parenthèse intime, mais le prochain livre sera sur... Les hétéronymes de Fernando Pessoa.
Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour en parler.
J'espère aussi.
Merci beaucoup en tout cas et à une prochaine fois. Merci.
Merci à vous.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'était Mathieu Mégevan sur Radio Libertaire. Je vous recommande la lecture de ce livre qui est vraiment très sensible et qui pose des questions touchantes. On va continuer dans un tout autre registre avec le Nobel des massacreurs de Claudine Desmarteaux, paru dans la collection Signes chez Gallimard. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéo et Débat, avec le grand plaisir aujourd'hui de faire connaissance avec Claudine Desmarteaux pour un ouvrage passionnant qui est paru dans la collection Signes chez Gallimard et qui s'intitule « Le Nobel des massacreurs ». Alors, c'est un titre qui peut faire peur. Le bandeau dit également « Qui sont les fous de l'histoire ?» et c'est un livre absolument passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il aborde un sujet difficile qui est le sujet de la lobotomie, ce qui est quand même pas fun a priori, mais en même temps c'est important d'en parler parce que c'est une thérapeutique qui a été appliquée pendant des années et le fait de l'aborder sous la forme du roman Claudine Desmarteaux donne une grande force à votre propos parce que en plus l'écriture est enlevée, le bouquin est absolument passionnant. On lit ça comme on lirait un polar. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a beaucoup de sujets secondaires qui sont intéressants aussi et qu'on va être amené à aborder. Alors moi qui suis assez vieille, le premier souvenir que j'avais de fiction autour du sujet de la lobotomie, c'était un film de Ken Loach qui s'appelait Family Life, où il était question d'une adolescente qu'on trouvait un peu trop dévergondée parce qu'elle fréquentait un peu trop les garçons, et ça se terminait pour elle par le fait d'être lobotomisée. Donc ça, c'était un des premiers films de Ken Loach, et ça m'avait marqué. Au moment de sa sortie, et puis après, de par mon parcours médical, j'avais été amenée
à voir un peu toutes les thérapeutiques qui avaient été utilisées dans le domaine de la psychiatrie quand on ne savait pas trop quoi faire et avant que ne soient découverts les neuroleptiques. Alors, vous, Claudine Desmarteaux, comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ce sujet ?
Alors moi, j'ai pas vu le film de Ken Loach, mais je me souviens d'avoir été fort marquée par Vol au-dessus d'un nid de coucou, que j'ai vu en salle au moment de la sortie. Alors j'étais jeune, je crois que j'avais 13 ans, et j'ai été très marquée, en particulier par la fin du film. Mais en fait, ce qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet, c'est ma fille qui a passé un concours d'une école d'art. Et comme sujet, elle avait 1950, 2000, 2050. Et elle a réfléchi, parce qu'il y avait énormément des milliers de candidats, et elle a décidé d'aborder le sujet sous l'angle de la folie et de la manière dont la société prend en charge les fous aux trois époques différentes. Et donc elle a fait des recherches, et c'est elle qui m'a présenté les docteurs Moniz et Gazmoniz, qui a donc eu le prix Nobel de médecine en 1949 pour ses travaux sur la leucotomie dans le traitement de certaines psychoses, et le docteur Walter Freeman, qui est un personnage central du roman, parce que lui, il est, je ne sais pas comment on peut le qualifier, il y a des dizaines d'adjectifs tellement il est baroque, à la fois charismatique, complètement taré. Donc en fait, elle m'a montré ça, et c'est ainsi que j'ai appris que donc Egas Moniz a eu le prix Nobel de médecine en 1949, alors qu'il préconisait la lobotomie comme traitement de l'homosexualité, qu'il considérait comme une maladie mentale, qu'il fallait traiter comme n'importe quelle autre maladie mentale. Donc ça, déjà, quand on lit ça sur Wikipédia, c'est un choc quand même. C'est quand même un choc de se dire, il a toujours son prix Nobel alors que oui. Voilà. Enfin, de toute façon, il a beaucoup théorisé sur la vie sexuelle. Il a écrit un pavé qui s'appelle « La vie sexuelle »,« La vida sexuelle », que malheureusement j'ai pas lu parce que je suis pas bilingue en portugais, mais j'ai lu des articles très intéressants à ce sujet, et en tout cas il a des théories très arrêtées, très rétrogrades, misogynes, homophobes,
légèrement misogynes aussi,
oui, sur la de toute façon la lobotomie, en fait on se rend compte que là où ça devient terrifiant, c'est quand c'est un moyen de contrôle sur des individus qui sont considérés comme déviants,
tout à fait,
pour les faire rentrer, les remettre sur le rail.
Voilà. Mais bon, c'est, sans digresser de trop, c'est le cas de la psychiatrie depuis très très longtemps. Les femmes et les homosexuels ont toujours été des cibles privilégiées. Il y a qu'à voir les traitements qui étaient appliqués aux hystériques, entre guillemets, qui étaient de la barbarie totale, et ça depuis le début du XXe siècle. Alors, ce qui était intéressant, Claudine Desmarteaux, dans le Nobel des massacreurs, ce roman qui est paru chez Gallimard dans la collection Signes, c'est ce choix de la narratrice, du personnage principal qui moi m'a intéressée. C'est, alors bon, on va expliquer dans quel cadre on se situe. C'est une jeune femme de bonne famille qui a une mère très dépressive, un frère absolument fantastique qui adore la poésie, qui est importante dans le livre d'ailleurs, et un père qui est un véritable c'est un véritable tyran, une espèce de pervers narcissique, comme on dirait maintenant, mais qui terrorise surtout sa famille. Et elle a une seule envie, c'est de partir et surtout de ne jamais se marier. Ça, c'est très, très important. Et elle va avoir comme modèle une femme journaliste dont j'aimerais bien qu'on parle parce qu'elle est importante aussi. Et c'est elle qui va être son inspiratrice.
Oui, tout à fait. En fait, c'est son frère qui lui parle, parce que son frère est très cultivé et puis il a une culture un peu alternative comme ça. Il lui parle de Nelly Bly, une jeune femme, alors là, qui a vraiment existé,
oui, bien
sûr.
Qui, à la
fin du 19e siècle, a été la première à pratiquer le journalisme d'infiltration. Et elle avait... quand on lit la vie de Nelly Bly, on se dit, c'est pas possible, c'est un personnage de roman.
Elle fait tellement de choses.
Elle a fait tellement de choses, alors elle a eu une vie très dure, elle a été orpheline très tôt. Peut-être que c'est ça qui lui a donné cette force. Enfin, en tout cas, elle s'est fait donc passer pour folle, pour infiltrer un hôpital psychiatrique à New York. Et dans le but d'écrire un article et de révéler les traitements abominables qui étaient réservés aux femmes internées en psychiatrie, dont la plupart, d'ailleurs, enfin, beaucoup d'entre elles n'étaient absolument pas folles et étaient là parce que le mari, soit parce qu'elles avaient un amant, soit parce qu'elles avaient eu des relations conflictuelles avec certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'histoire de la lobotomie, que parfois, il suffisait d'avoir des relations conflictuelles avec quelqu'un de la famille pour se retrouver entre les mains du docteur Freeman.
Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, the bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
C'était le cas. Alors, la psychiatrie était quand même une discipline particulière à l'époque. C'est vrai que c'était des hospices où on entassait les malades. D'ailleurs, vous le rendez très bien, Claudine Desmarteaux, dans le Nobel des massacreurs, parce que vous évoquez les patients qui sont entreposés dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est vraiment... c'est le cas aux États-Unis, mais c'était la même chose en France. C'était des conditions de vie absolument ignobles. Il n'y avait pas de soins, bien sûr. Ça allait jusqu'à la torture physique, que ce soit par les thérapeutiques ou par les mauvais traitements, pénurie en nourriture, le froid, l'absence d'hygiène. Enfin, c'était dramatique, la condition asilaire de la première partie du XXe siècle était horrible.
Oui, c'était absolument épouvantable. Et en effet, les traitements de choc qui étaient extrêmement violents étaient inefficaces et on n'avait rien de mieux à proposer à tous ces malades incurables, en fait, qu'on n'arrivait pas à soigner, qui s'entassaient dans les asiles. Et on comprend que dans ce contexte-là, après tout, une innovation, puisqu'à l'époque c'était une innovation, telle que la lobotomie, ait pu représenter un espoir extraordinaire de soulager toute cette souffrance, en fait. Et le docteur Freeman, qui a passé beaucoup de temps, parce qu'il était directeur du laboratoire de Sainte-Élisabeth, du laboratoire Blackburn à l'hôpital Sainte-Élisabeth, qui est un énorme hôpital psychiatrique aux États-Unis, il a vu ça pendant des années, et je pense qu'il avait quand même un désir de soulager toute cette souffrance. Oui. Et donc, oui, on comprend qu'on se dit, et même si quelqu'un de votre famille, admettons que quelqu'un de votre famille soit dans une détresse, s'enfonce complètement dans la maladie, dans la souffrance, dans la dépression, dans un état suicidaire, une agitation, enfin, qui soit absolument ingérable pour vous, vous en faites quoi? Si on vous dit, ben, je vais l'opérer, ça va prendre une petite demi-heure à peine, et puis vous allez vous retrouver la personne que vous connaissiez, calme, agitée, heureuse. Et en effet, il y a eu, dans certains cas, la première patiente lobotomisée par le docteur Freeman, qui est morte 6 ans après, mais d'une pneumonie, elle était très heureuse de son opération, son mari aussi. Et puis ça a été le cas aussi de la première patiente sur qui le docteur Freeman a pratiqué une lobotomie transorbitaire, qui était une femme jeune, qui avait un enfant et qui avait des crises de violence, d'agitation, suicidaire, etc. Et sa fille en parle encore aujourd'hui, parle du docteur Freeman comme d'un saint, de quelqu'un qui lui a rendu sa mère et qui a rendu... Donc, il y a eu quelques réussites, oui.
Mais l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions.
Et puis surtout, ce qui est impardonnable, c'est l'aveuglement et le déni sur tous les autres cas, avec des effets secondaires irréversibles et gravissimes.
Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, les neurosciences à l'époque n'existaient pas. On n'avait pas d'imagerie cérébrale. D'ailleurs, celui qui aura le prix Nobel pour la leucotomie l'aura aussi pour l'angiographie cérébrale. On en est vraiment au balbutiement de l'étude du cerveau. On ne connaît pas grand-chose. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces interventions, dont on détaillera les protocoles d'ici quelques minutes, sont faites à l'aveugle. On coupe, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on coupe. Et ça, c'est le premier point. Et c'est ce que va découvrir cette jeune femme, donc votre héroïne, qui, à l'instar de Nelly Bly, veut se lancer dans le journalisme. Elle est prête, elle est motivée, elle est dynamique. Et elle va commencer déjà par faire la tournée des rédactions pour essayer de se faire embaucher comme journaliste, alors qu'elle est une femme et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes dans ce milieu-là, au moment où se déroule le roman, c'est-à-dire dans les années 40.
Oui, je tenais beaucoup à faire une fiction. C'est-à-dire que l'histoire de la lobotomie, elle me fascine et elle me passionne depuis plus de 10 ans. Après que ma fille m'ait présenté ces abominables docteurs, j'ai réfléchi et je me suis dit comment je pourrais raconter ça, mais par le biais d'une fiction, en racontant une histoire avec des personnages qui nous font découvrir tout ça, parce que si on est trop dans le technique et dans le médical, ça peut être un peu ennuyeux. Donc il y a cette narratrice, effectivement, qui s'appelle Janet, qui est jeune, qui est pleine de fougue, qui est un peu naïve, mais pas tant que ça. Et donc, c'est elle qui va nous emmener, nous embarquer dans son enquête. Et en fait, le regard de Janet, il reflète le regard de l'époque sur la psychochirurgie. C'est-à-dire qu'au début, c'est un regard...
Émerveillé,
oui, parce que...
Parce que c'est un espoir.
Ce serait fantastique, après tout. Et en fait, si le prix Nobel de médecine avait été attribué à Egas Moniz... bien avant 1949, c'est-à-dire au début, ce serait moins scandaleux. Parce que au début, on n'avait pas encore peut-être assez de recul pour vraiment constater...
Les effets délétères.
Les changements de personnalité, les personnes transformées en légumes aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, les crises d'épilepsie, etc. Mais en 49, on avait suffisamment de recul pour savoir ça. Et finalement, comme vous le disiez, il a eu le prix Nobel essentiellement pour ses travaux sur l'angiographie. Il a été nominé 3 fois pour ses travaux sur l'angiographie, et puis on s'est rattrapé en lui donnant à la fois pour la leucotomie et pour l'angiographie. Mais
c'était un pack groupé, mais voilà. Bon, c'était pas opportun, et on n'est pas revenu sur cette décision surtout. Donc
Ah oui, parce qu'ils reviennent pas. Enfin, ils ne révoquent pas le. D'une certaine manière, on peut dire peut-être que ça peut se concevoir, parce que les innovations médicales, c'est forcément une prise de risque. Et une prise de risque, on ne peut pas connaître tous les effets secondaires qu'il y aura sur une prise de risque au moment où on prend des risques. Mais le problème, c'est qu'on lui a donné trop tard et qu'on les connaissait,
c'est déjà les effets secondaires. Tout à fait. Personnage de Jeannette est un personnage fascinant, déjà parce que ça introduit une dimension d'émotion dans le livre, parce qu'on vit au travers de ses réactions à elle, et puis parce que ça permet aussi de jeter un regard sur la condition féminine de l'époque, dans ce milieu qui est un milieu essentiellement masculin, et de voir un petit peu comment elle est traitée, elle, quand elle dit qu'elle veut devenir journaliste. Déjà, bon, on l'a fait poireauter, et puis les rapports qu'elle va avoir avec ses collègues sont assez particuliers. Il y a ce paternalisme, il y a cette condescendance, enfin, c'est terrible, quoi. Il faut vraiment qu'elle s'accroche.
Oui, et puis ça, peut-être que comme elle est jeune et naïve, elle n'en a pas conscience immédiatement, mais enfin, elle est aussi intelligente et elle s'en rend compte assez rapidement. Mais c'est un texte qui parle du pouvoir, du pouvoir des hommes sur les femmes, qui à l'époque était... on sait qu'aujourd'hui, c'est loin d'être réglé, mais à l'époque, c'était pire. Et puis aussi du pouvoir...
Radio Libertaire 89.4.
Les premiers pas, les mots tout bas dans les chemins creux de terrain, puis la vie qui donne la vie par le ventre arrondi. Et mon cœur ébloui par Marguerite, par la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Lune pleine est là sur son premier sommeil, sentinelle céleste sans guérir, veille à l'infini sur la petite. Et toi, soleil, le cœur du ciel, donne tout l'or de ton miel à Marguerite, à la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Mémoire un jour me trahit, que reste au moins en moi ton premier cri. Oh Marguerite, oh la Margot, la reine, la fleur, la pépite.
protection. They say that every man must fall. Yet I swear I see my reflection.
Valeur qui vaille en ce début de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le blues et les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte, un kilomètre d'autoroute, un grand stade à footballer, Super Phénix réformé. Combien ça coûte une famille, pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocet, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, des grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La la la, la 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 la, la la la, la la la, soin. Valeur qui vaille en ce début de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.
Émerveillé par l'art pour l'art, comme une boule de ventre.
faut avoir l'esprit de mission. La position du missionnaire, ça manque pas d'imagination. Et je me jette sous les brochots avec mon sourire en...
Radio Libertaire 89.4 et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors ce soir, nous recevons encore une fois un invité qu'on a déjà eu d'ailleurs il y a quelque temps, le sociologue Emmanuel Bobaty, auteur d'un essai « Ne suis-je pas un-e-un-une féministe » paru dans la collection Libelle des éditions du Seuil. Le livre pose une question fondamentale et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui peut aujourd'hui se réclamer légitimement du féminisme, à l'heure où les polémiques font rage autour de l'intersectionnalité, de la question trans, de l'affirmation du primat du biologique, ou au contraire, de celle de la dissolution des frontières de genre. Alors, Emmanuel, le titre de ton livre, bien sûr, tu ne l'as pas choisi par hasard. À quoi fait-il référence ? Ne suis-je pas une féministe ?
Alors, ce titre, effectivement, c'est une référence directe à une phrase bien connue dans le monde féministe et dans les études féministes, c'est « Ne suis-je pas une femme ?» qui est une phrase qui a été prononcée pour la première fois par Sojourner Truth, une ex-esclave noire à la Convention des femmes devant une assemblée de blanches, et qui a été repris ensuite, plus de 130 ans plus tard, par une des théoriciennes du « Black Feminism », Bell Hooks, qui en a fait le titre d'un ouvrage bien connu. Et donc, c'est effectivement une référence à cette phrase qui finalement interpelle des féministes, en l'occurrence blanches, sur le droit à faire partie de ce combat et à être reconnues aussi comme faisant partie de cette... De cette lutte. Je l'ai mobilisé pour aussi décentrer un petit peu le débat, puisque c'est un essai qui porte sur les trans, et pour montrer qu'on retrouve des logiques similaires avec d'autres populations, d'autres contextes, qui ne sont bien sûr pas exclusifs les uns des autres.
Ok. Alors, dans ton bouquin, et d'ailleurs dans la quatrième de couverture, je ne sais pas si c'est toi qui es l'auteur de cette quatrième de couverture, mais tu fais une longue liste de celles et ceux qui sont exclus d'une partie du mouvement féministe. Est-ce que tu peux nous rappeler cette liste ? Tu parles des trans, des éventuellement des femmes qui portent le voile, d'une assez grande catégorie de personnes.
Oui, en fait, c'est un texte finalement sur les frontières du féminisme, hein, sur qui a le droit ou pas, et selon qui d'en faire partie ou non. Et j'ai choisi quelques exemples, effectivement, de l'histoire féministe contemporaine, qui permettent d'aborder ce sujet-là, et qui est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais dans cette liste, on trouve, par exemple, les lesbiennes, les femmes noires, les femmes musulmanes qui portent le foulard, ou encore les travailleuses du sexe. Et à travers ces divers exemples, encore une fois, et ça aurait pu être d'autres exemples, et voilà, c'est pas forcément historiquement exhaustif, mais de populations qui, à un moment ou à un autre,